Bonjour. Aujourd'hui, nous offrons une section de texte attirée des médias suivants, La Presse et Le Devoir. Au programme, des mères célibataires s'unissent sous le même toit. Comprendre la pensée complotiste et la littérature autochtone plus qu'une saveur du mois. Bonne écoute.
Des mères célibataires s'unissent sous le même toit. Un texte de Deborah Kamen, paru le 27 mai 2023 dans La Presse, publié à l'origine dans le New York Times. D'abord, Kristen Beatty Keffer a perdu son travail en marketing à la suite d'une restructuration. Ensuite, son mariage s'est effondré et elle s'est retrouvée sans revenu ni toit. Pour l'aider à se remettre sur pied l'an dernier, deux amis l'ont hébergée avec sa fille, qui a maintenant 4 ans, dans leur maison de 4 chambres près de Jacksonville, en Floride. Puis, la meilleure amie de Mme Betty Keffer, Tessa Gilder, en instance de divorce elle aussi, a emménagé dans la maison avec ses 2 enfants de 1 et 5 ans. Très vite et sans que ce soit planifié, elles se sont retrouvées dans une commune de mères célibataires, ce que les Américains appellent une « momune », mot-valise formé de mom et de commune. Solidarité maternelle et financière. Partout dans le monde, des femmes unissent leurs forces sous le même toit, partageant l'éducation des enfants et les factures. Quand elle était mariée, Mme Betty Keffer avait raconté sur les réseaux sociaux sa vie familiale nomade dans un bus rénové. Âgée de 32 ans, elle tient désormais la chronique de sa nouvelle vie de célibataire dans une maison occupée par 4 adultes et 3 enfants. Lorsqu'elle a été clouée au lit par un mal de tête, un mal de gorge et des courbatures, les autres femmes lui ont préparé une soupe et des biscuits et ont emmené les enfants au parc pour qu'elle puisse se reposer. Un système de soutien sans pareil, a écrit Mme Betty Keffer sur TikTok dans un message qui a été vu plus d'un million de fois. J'aurais dû emménager dans une momune il y a longtemps. Ce mode de vie n'est pas nouveau. Les mères partagent des maisons depuis des siècles. Mais la pandémie et le nombre croissant de familles monoparentales aux États-Unis ont mis en lumière cette structure familiale réinventée. Dans les cultures latines, il y a cette idée de comadre, comère, une personne qui vous soutient et vous aide à élever vos enfants, explique Grace Bastidas, rédactrice en chef de Parents.com. Durant la pandémie, on a vu toutes sortes de groupes de soutien se former. Il s'agit donc d'une nouvelle version de ce type de partenariat. Madame Bastidas a grandi dans une commune de mères, élevée avec sa sœur et sa cousine dans la même maison par sa mère et sa tante, toutes deux célibataires. On dit qu'il faut un village pour élever un enfant, mais il n'y en a pas toujours un, soutient Grace Bastidas, rédactrice en chef de Parents.com. Les mères célibataires sont très touchées par l'inflation et la rareté des garderies, ajoute-t-elle. Ça fait partie d'une tendance plus large de parents qui élargissent le concept de famille et prennent les choses en main pour trouver des solutions créatives. Près de 80% des familles monoparentales aux États-Unis sont dirigées par des mères célibataires, selon le dernier recensement. La recherche montre que ces familles sont beaucoup plus susceptibles de connaître pauvreté, détresse psychologique, faible estime de soi et manque de soutien émotionnel. En avril 2020, en plein confinement pandémique, Holly Harper, cadre en marketing, et Erin Hopper, avocate, venaient toutes deux de divorcer. Ces deux amies de longue date télétravaillaient et encadraient l'école virtuelle de leurs enfants dans de minuscules appartements à Washington. Vivre si petitement, à si grands frais, n'avait plus de sens. Elles ont uni leurs ressources financières et acheté une maison. Regagner l'accès à la propriété. Pour Erin Hopper, 46 ans, cet arrangement permet d'assumer les tâches domestiques et la carrière sans conjoint. Il permet aussi l'accession à la propriété après un divorce. Holly et moi, on a toujours eu un penchant pour le voyeurisme immobilier. On s'est dit, pourquoi pas? Partager une maison, ajoute Holly Harper, offre aux mères célibataires une chose essentielle qui disparaît souvent quand leur couple se casse, la mobilité économique. Nous voulons la sécurité pour nos enfants et le soutien dont tout être humain a besoin. La base économique de tout ça, c'est l'immobilier. Quoi de plus logique que de partager, nous dit Erin Hopper. Carmel Boss vit depuis longtemps en commune de mère. Elle affirme avoir inventé l'expression « momune » bien avant qu'elle entre dans le vernaculaire américain. Il y a 20 ans, après son divorce, elle a fondé Co-Abode, une plateforme sans but lucratif de partage de maison pour mères célibataires. Quand elle a décidé d'inviter une autre mère célibataire de Los Angeles à vivre avec elle et son fils de 7 ans, elle a constaté qu'il n'existait aucune ressource permettant aux mères célibataires à la recherche d'un logement commun de se rencontrer. L'idée de Co-Abode était née. Un Kijiji pour les mères. Au début, Co-Abode était une sorte de Kijiji pour les mères, dit-elle. En 2016, elle l'a transformé en entreprise à but lucratif. Depuis, 300 000 mères célibataires ont créé des profils de partage de logements sur son site, estime-t-elle. C'est comme un village en ligne, sauf que les femmes se rencontrent en personne, explique Madame Boss, 69 ans. En Floride, Tessa Gilder et Kristen Bettekeffer n'ont pas l'intention de rester éternellement dans cette maison de quatre chambres près de Jacksonville. Le duo espère acheter et rénover une maison d'ici un an. Pour réduire les coûts, elles ont signé un contrat avec un producteur de télévision qui pense que la rénovation ferait une télé-réalité divertissante. Mais avec ou sans cette aventure télévisuelle, Madame Bettekeffer affirme que la petite communauté qu'elle a créée dans sa maison actuelle l'a aidée à se remettre d'une peine d'amour et à trouver une certaine paix. Elle se sent plus présente et plus concentrée en tant que mère. Quand j'ai dû quitter mon mari, j'étais obnubilée par la nécessité de me débrouiller seule pour acheter une maison, payer mes factures et élever mon enfant, a déclaré Madame Bettekeffer, dont le divorce a été prononcé en février et qui partage désormais la garde de ses enfants avec son ex-mari. Je n'avais jamais pensé à trouver une autre mère célibataire avec qui vivre et faire ça à deux. C'est arrivé par hasard, c'est tout. Mais maintenant, je me dis, pourquoi est-ce une exception d'unir nos forces? C'était « Des mères célibataires s'unissent sous le même toit », un texte de Deborah Kamin, paru le 27 mai 2023 dans la presse, publié à l'origine dans le New York Times.
Comprendre la pensée complotiste, un texte de Simon Chabot paru le 21 mai 2023 dans la presse. Dans un monde complexe où une crise n'attend pas l'autre, le pouvoir d'attraction des théories du complot est immense. Mais d'où viennent-elles et qui se laisse séduire par leurs réponses toutes faites? Co-titulaire de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent, David Morin propose quatre sources pour une incursion dans l'esprit des complotistes. Un guide, un tour d'horizon. Publié aux éditions Que sais-je, le livre « Les théories du complot » de Pierre-André Taguieff constitue une très bonne entrée en matière pour comprendre la pensée complotiste, observe David Morin. L'auteur, philosophe, politologue et historien, est un théoricien renommé du complotisme en France. Dans ce petit bouquin, il s'attarde notamment aux règles de la pensée conspirationniste, pour laquelle rien n'arrive par accident, par exemple, et aux fonctions des complots, qui répondent à une quête de sens. Pour David Morin, tout le monde a un peu de pensée complotiste en lui. Devant des phénomènes qui provoquent un sentiment de perte de contrôle, certains griefs sont valides et le doute est sain. Or, un complotiste renonce au doute quand il fait sienne une théorie du complot. Le point de bascule, c'est quand quelqu'un analyse tous les phénomènes sociaux à l'aune de complots supposés. Un glissement qui peut mener à l'isolement, voire au recours à la violence, dans l'objectif de mettre fin au complot. Pour approfondir la réflexion, le professeur propose le complotisme, cognition, culture, société, un ouvrage scientifique de Sébastien Diegues et Sylvain Delouvet, qui fait la synthèse des travaux de recherche sur la question, aux éditions Mardaga. Un essai, parole de complotiste. Avec son essai « Dans la tête des complotistes », le journaliste au Monde, William Audureau, transporte les lecteurs dans la vie de complotistes pendant la pandémie en France. Après les avoir côtoyés longuement, il retrace leur trajectoire. « C'est très intéressant, dit David Morin, de voir pourquoi ces gens-là ont fini par adhérer aux théories du complot. » Une enquête sérieuse racontée avec une très belle plume et de l'humour, qui montre que les complotistes proviennent de milieux divers. De la droite identitaire, des mouvements anti-gouvernementaux et même de l'alter-science. N'empêche, les complotistes se situent souvent aux extrêmes du spectre politique, parmi ceux qui ne prennent jamais vraiment le pouvoir et qui peuvent en être frustrés, précise le professeur. Pendant la pandémie, ajoute-t-il, un écosystème réactionnaire de droite a su capitaliser sur ses frustrations pour promouvoir ses idées. Afin d'explorer le discours de complotiste québécois, David Morin suggère l'émission balado « Conviction » de Simon Coutu sur Audio, ainsi que le livre « Faire ses recherches » du journaliste de la presse Tristan Péloquin aux éditions Québec-Amérique. Les recherches montrent que de 6 à 9 % de la population adhère de façon importante aux théories du complot, rappelle le professeur. C'est minoritaire, mais ce n'est pas marginal. Une émission balado, une théorie à la fois. Des protocoles des sages de Sion au 11 septembre ou à la pandémie, en passant par QAnon et même le grand remplacement, les théories du complot sont multiples, élaborées et fascinantes. Comment sont-elles nées? Qui les a portées? Dans son émission balado « Mécanique du complotisme », France Culture examine quelques-unes des plus célèbres d'entre elles, depuis la formation de l'Ordre des Jésuites à Paris en 1534. Dans certains cercles, ces religieux sont accusés de déclencher des guerres ou d'assassiner des dirigeants pour contrôler le monde. À leur solde, le pape François organiserait l'invasion migratoire de l'Occident. Chaque épisode dure une quinzaine de minutes. Pour quelqu'un qui veut mieux évaluer ces théories, ce qu'elles signifient, c'est facile, dit David Morin. Il peut se dire « Pendant mon jogging », je vais essayer de comprendre les théories liées au 11 septembre. Quelques épisodes scrutent la mouvance QAnon qui a fait beaucoup de bruit aux États-Unis, notamment parce que Donald Trump en a relayé des éléments. HBO a aussi consacré une excellente série documentaire à cette mouvance selon laquelle le monde est dirigé par une clique pédosataniste, ajoute David Morin. On peut voir Q, Into the Storm, avec sous-titre français sur Crave. Un film, un événement, 50 complots. L'assassinat de JFK est l'un des événements qui ont suscité le plus de théories du complot, constate David Morin, qui s'amuse de constater qu'un seul fait peut générer 50 théories pour l'expliquer. Dans son long métrage JFK, sorti en 1991, le réalisateur Oliver Stone s'attarde à l'une de ses théories, celle du procureur de la Louisiane, Jim Garrison, selon qui Kennedy a été victime d'un coup d'État ourdi notamment par la CIA. En 1969, au terme d'une longue enquête, Jim Garrison a fait un procès à Clay Shaw, impliqué dans la machination selon lui. Or, l'homme d'affaires a été acquitté. Immensément populaire, le film a valu à Oliver Stone d'être traité de complotiste, rappelle M. Morin. Selon lui, JFK montre comment, malgré des preuves étayées, certaines théories résistent à l'épreuve des faits. C'est particulièrement vrai aux États-Unis, estime le professeur. Ça vient d'une méfiance vis-à-vis de l'État fédéral américain, dit-il. La ligne est parfois grise entre les vrais complots, comme ceux de la CIA au Nicaragua ou celui du 6 janvier, planifié par les partisans de Trump, et les théories du complot. JFK est une étude de cas intéressante. On peut louer JFK sur de nombreuses plateformes, dont Apple, Amazon et YouTube. C'était « Comprendre la pensée complotiste », un texte de Simon Chabot paru le 21 mai 2023 dans la presse.
La littérature autochtone, plus qu'une saveur du mois. Un texte de Manon Dumais, paru le 3 juin 2023 dans Le Devoir. Lancé récemment au Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue, SLAT, la troisième édition d'en juin, Je lis autochtone, semble avoir le vent dans les voiles, selon les créateurs de l'événement, Daniel et Cassandre Sioui, propriétaires de la librairie et des éditions Anunnorak à Wendake. C'est la première année qu'on s'associe avec le SLAT, explique Daniel Sioui. Même si on n'était pas encore en juin, on trouvait que c'était une super bonne idée, étant donné qu'il y avait une belle programmation autochtone. Je n'étais pas présent, mais en regardant les chiffres de vente, je sais qu'il y a un grand engouement pour les littératures autochtones. De fait, outre le succès phénoménal du roman « Koukoum », Stanké 2019 de Michel Jean, toujours très populaire en librairie, rappelons la vague d'amour que suscite la poète Joséphine Bacon, You Wish, quelque part, Mémoire d'Encrier 2018. Le prix des collégiens remporté en 2020 par Chouni, Mémoire d'Encrier 2019, de Naomi Fontaine, à qui l'on doit aussi Kwesipan, Mémoire d'Encrier 2013, magnifiquement porté à l'écran par Myriam Véro en 2019. Si je compare les 5 dernières années avec l'époque où j'ai commencé ma carrière, il y a 20 ans, quand je m'intéressais moins à la culture autochtone, c'est exponentiel, constate l'artiste Jocelyn Sioui, qui vit à Montréal. En Gaspésie, mes salles sont pleines. Cette année, j'ai présenté mon oncle, Jules, 5 soirs à Vancouver, où je ne suis pas connu du tout, et la salle était pleine. Pour quelqu'un dont le visage n'est pas connu, j'étais marionnettiste à la base et je travaillais beaucoup dans l'underground. D'arriver à remplir une salle, c'est la preuve que ça intéresse les gens. Dès la première édition de « Je lis autochtone », Daniel et Cassandre Sioui ont été surpris par la réponse enthousiaste des libraires. « Tout le monde embarque !» s'exclame Daniel Sioui, qui a également créé « Kwayatonk », Salon du livre des Premières Nations, dont la 12e édition se déroulera à Québec du 16 au 19 novembre 2023. On n'a pas eu le choix de continuer, on ne pensait pas que ce serait aussi gros. La première année, c'était un peu la folie, renchérit Cassandre Sioui. L'un des distributeurs avec lesquels on faisait affaire nous disait que dans les librairies où il y avait une mise en place des littératures autochtones, c'était leur meilleur rendement de toute l'année. Qui lit autochtone? Au Québec, on compte 11 peuples autochtones, ce qui signifie 11 langues et 11 littératures. Or, qui s'y intéresse réellement? Les autochtones ou les allochtones? Monsieur et Madame Tout-le-Monde, répond sans hésiter Jocelyn Sioui. Exactement comme n'importe quelle autre littérature. Il y a de tous les genres, poésie, polar, BD, donc ça attire tout plein de monde. C'est plus difficile du côté des autochtones, peut-être, parce que l'éducation n'est pas la même, car ce n'est pas une critique, mais un constat. Moins il y a d'études, moins il y a de lecteurs, mais ça tend à changer. Depuis 2009, année de la fondation de la librairie Anénorak, les lecteurs aussi ont changé. Aux touristes attirés par le folklore se sont succédés des lecteurs avisés, tant du côté des Wendat que des autres communautés autochtones et des allochtones. Chaque personne peut trouver un intérêt, tout dépendant du type de livre qui les intéresse, explique Cassandre Sioui. Un jeune Atikamekw peut prendre une bande dessinée de Gore Hill comme porte d'entrée puis se tourner vers la poésie. Les Québécois, qui vont peut-être commencer par Kukum, parce que c'est le livre dont ils ont entendu le plus parler, peuvent ensuite aller vers J.D. Curtness ou vers Virginia Pezé-Mapéo-Bordelot. En découvrant la littérature autochtone, ils constatent qu'il y a une littérature Wendat, une littérature Innu, une littérature Inuit. Si chacune de ces littératures possède ses propres spécificités, les trois Wendat s'entendent pour dire que dans chacune d'elles, l'humour, parfois politiquement incorrect, parfois teinté d'une bonne dose d'ironie ou d'autodérision, y tient une place de choix. Sans oublier la figure du trickster qui apparaît dans les cultures autochtones d'un océan à l'autre. Dans beaucoup de livres, je remarque une volonté de ne pas trop se prendre au sérieux, affirme Jocelyn Sioui. La relation avec le territoire revient pas mal dans toutes les nations. Peut-être parce que la poésie est plus près du rythme de la nature, il y a beaucoup de poètes chez les Innus et aussi chez les Wendat. La transmission est un trait commun aux littératures autochtones, de même que les valeurs traditionnelles, comme le rapport aux autres, la protection de l'environnement. Je pense que les revendications politiques sont plus propres aux Wendat. Avec Louis-Carl Picard-Sioui, on en fait. Au-delà de l'humour, des thèmes et des genres exploités, les littératures des différentes nations expriment la fierté d'être autochtones, en réserve ou pas. On sent aussi la fierté de pouvoir parler sa langue, confirme Daniel Sioui, qui regrette de ne pas parler le Wendat. On a quand même peur que les langues disparaissent. C'est par les arts, et ça, le Québec le sait, qu'on peut faire vivre sa langue. C'est pour ça qu'on est content de voir la résurgence des arts autochtones. On rêve qu'il y ait d'autres maisons d'édition autochtones, qu'il y ait une relève, parce qu'on ne sera pas là éternellement. Quand la langue t'habite depuis toujours, cela transparaît dans l'écriture, pense Jocelyn Sioui. Je le sens dans le rythme de Joséphine Bacon, qui est Innu. Même moi, qui ne maîtrise pas le Wendat, j'apprends des mots en Wendat, et cela teinte mon écriture, ma réflexion, parce que je découvre un autre sens aux mots. L'ours et l'arbre, par exemple. Instinct de survie. Ce regain d'intérêt pour la culture autochtone serait lié à la découverte des sépultures anonymes près des pensionnats pour autochtones à travers le Canada et du décès de Joyce Echaquan, une Atikamekw victime de racisme systémique en 2020. Malheureusement, ça prend parfois des tragédies pour que les gens se rapprochent, croit Cassandre Sioui. Ce qui s'est passé avec Joyce Echaquan a été un électrochoc, peu importe notre nation. On est solidaires. À la marche pour le climat avec Greta Thunberg, il y avait des autochtones de partout au Canada. Avec les pensionnats, les gens ont compris qu'il leur manquait un bout de leur histoire, rappelle Jocelyn Sioui. Il faut comprendre ce qui s'est passé pour s'intéresser à l'autre. Ça prend du temps pour ça. Avant, il n'y avait presque pas de place dans les médias pour les Autochtones. Maintenant, il y a des nouvelles 3 ou 4 fois par semaine. C'est nouveau pour nous et c'est fantastique. Si je lis « Autochtones » occupe le territoire québécois avec une petite incursion en Ontario, Daniel Siwi ne serait pas contre l'idée de s'associer à un éditeur anglophone afin que l'initiative devienne pan-canadienne. D'ici là, à l'instar d'autres membres des différentes nations, il devra veiller à ce que cet intérêt pour la culture autochtone perdure. Depuis une dizaine d'années, on a travaillé fort pour qu'il y ait une présence autochtone dans les théâtres, les librairies, les écoles. Je vais tout faire pour que l'avenir soit brillant. Je suis très positif dans la vie et je me dis que ce qu'on a gagné, on ne va pas le perdre. Je refuse que ce ne soit qu'un effet de mode, qu'on soit la saveur du mois, conclut Jocelyn Siwi. Jusqu'au 30 juin, dans les librairies participantes, je lis autochtone.ca. C'était « La littérature autochtone, plus qu'une saveur du mois », un texte de Manon Dumais, paru le 3 juin 2023 dans Le Devoir.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Justine Langevin, André Lebeau et Gilbert Lepage à la lecture, Francine Thériault et André Lebeau à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.